pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, comme chaque lundi qui se respecte, nous avons avec nous Jamin Stouki pour sa chronique qui va s'appeler aujourd'hui L'envers du décor. De quel décor? J'ai déjà peur, mais je vais l'écouter quand même. Et puis ensuite, j'ai décidé, en vue de ce qui s'est passé en France et du premier tour, que nous échangerions sur la politique française et pour ce premier tour des présidentielles. Donc on va le faire avec Jamin et puis on va aussi avoir avec nous Audrey Béacou, qui travaille ici, qui est coordinatrice du contenu et des médias sociaux au Canal M, et qui est arrivée il y a un peu plus d'un an, et c'était sa première fois où elle votait de l'étranger. Alors on va en discuter avec elle dans deuxième partie d'émission.
Un sujet fort intéressant, mais c'est bien.
Pour l'instant, nous partons en musique avec Carla Chanel, qui nous chante Fleurs. Alors voilà, on vient d'entendre Carla Chanel et maintenant on va entendre la voix de basse de Jamin Stouki pour sa chronique L'envers du décor. Jamin, c'est à toi.
C'est déjà à moi, j'ai plus l'habitude de démarrer l'émission comme ça, c'est perturbant là. Ouais. Je
préfère qu'on parle de politique dans la dernière demi-heure, histoire qu'après ce soit coupé, ça soit fini.
On n'est pas obligé non plus de parler,
j'ai envie d'en parler.
Personne d'autre.
Si, il y a tout plein de Français ici, puis de gens qui s'intéressent à ça.
Oui, des Français, mais on est au Québec.
Faut savoir. Il y a plein de Québécois qui s'intéressent.
J'ai failli être un petit peu en retard, parce que c'est toujours pareil, hein. C'est 5 minutes avant d'entrer sur scène ou d'entrer en antenne comme ça, j'ai vraiment un trac fou Un stress pas possible. Vous voyez, dans le bas-ventre, là-dedans, ça danse la samba. Et ça va être de bon cœur, hein, les montagnes russes. Même si aujourd'hui, c'est pas forcément bien de le dire, ça. Hein. D'ailleurs, vous savez combien de fois j'ai été aux toilettes dans la dernière demi-heure ? 17. Et demi. Ouais, la demi, c'était une fausse alerte, en fait. Alors, je sais que les gens qui viennent voir les spectacles, parce que c'est principalement dans les spectacles, avant de monter sur scène, qu'on a un track, hein, c'est pour rigoler, passer un bon moment, ne pas se prendre la tête. Mais en humour, on n'a pas le droit à l'erreur. Non, c'est vrai. Dans le dramatique, c'est moins grave. Tu sais pas trop dans le dramatique quand le public est attentif, concentré ou endormi. Ça, tu ne le sais qu'à la fin, quand il se lève pour applaudir. Soit il se lève pour partir, soit il se lève pour applaudir. Mais si jamais tu entends juste... tu sais que tu as passé une soirée de marde. Voilà. Les gens qui étaient bien endormis.
Ça ressemble à ça.
Voilà. Mais en humour, non, alors que nous, humoristes, on doit faire rire. Si tu fais pas rire, tu vas te faire lyncher. Et le rire, ça s'entend.
Oui,
donc tu peux pas tricher. Et c'est ça qui nous amène un stress. Parce que si on n'entend pas le rire, automatiquement ça nous prend. Mais par contre, si vous rigolez, alors là c'est le bonheur, c'est une jouissance. Parce qu'après tout le travail qu'on a fait, mais en fait c'est notre récompense, vos rires. En plus, vous ne vous imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière, avant de faire le show. L'écriture, l'apprentissage des textes, les répétitions, la mise en scène, les costumes, les décors. Bon, c'est vrai que moi, généralement, je fais light hein, en niveau décor. Hein, c'est une boîte noire. Mais c'est normal, c'est petite production, j'ai pas de budget, je n'ai pas d'aide, donc je fais comme je peux. Mais quand même, on fait le plus beau métier du monde. Auteur, interprète, humoriste. Ça claque, hein.
Ça claque, ouais.
Ouais, ça
en
claque.
Jette.
En tous les cas, c'est mieux qu'intermittent du chômage. Un jour, je vais faire les courses chez mon épicier.
Tu vas pas rire, d'ailleurs, c'est pas drôle.
Et il me demande ce que je fais dans la vie. Et là, je lui ai répondu fièrement, comédien. Et là, l'épicier qui me répond, non mais sérieusement, c'est quoi votre vrai métier? Et le pire, c'est ma mère. Parce que quand ma mère, quand on lui demande ce que je fais dans la vie, elle répond, le con. Je sais pas trop comment je dois le prendre, ça. Hein. Surtout en tant que Belge.
C'est plein d'affection.
C'est ça, on va dire ça comme ça. Surtout qu'au plus bas de l'échelle, on trouve le gentil con. Celui qui est sympa. Mais au sommet, et ça peut aller très très haut, on peut aller jusqu'à la belle grosse tête de con. Donc où est-ce que je me situe par rapport à tout ça? Mais moi...
Si c'est maman, elle te mettra jamais à l'étage.
Mais moi, je suis bien au-dessus de tout ça. Hein. C'est vous dire la connerie d'ailleurs. Hein. Mais ce qui compte le plus, ce sont les applaudissements du public. Oui, applaudissements du public. Surtout quand t'as pas besoin de les demander, qu'ils sont spontanés, tu vois, que ça vient comme ça, qu'on sent que ça vient du cœur. Les cris de la foule en délire. Wow. Les femmes qui me montrent leur sein. Bon, ça n'arrive jamais, mais bon, on peut toujours espérer, tant pis. Sans oublier, la longue file d'attente de mes fans juste devant la... Allez, devant la...
La porte
Non, pas la loge. La caisse. En tout cas, je sais que généralement, il y a du monde dans le soir à mes spectacles. Enfin, je vais parler de samedi, il y avait du monde... Deux fois plus que la veille. Oui, c'est le bouche à oreille qui commence à fonctionner.
Ah bah alors, félicitations.
Ah oui, il serait temps ça, au bout de 6 mois hein, de présence sur scène. mais par chance, il n'y avait pas ma mère. Non, parce que j'adore ma mère. Hein, c'est une de mes fans inconditionnelles. C'est la femme la plus importante de ma vie. Mais le problème avec ma mère, c'est qu'elle vient tous les soirs. Oui, tous les soirs, elle se met au premier rang. Là, elle met ses petites lunettes.
Elle dit.
Elle fronce ses petits sourcils. Elle pose le texte sur ses genoux. Oui, parce qu'elle m'impose de recevoir le texte de mes spectacles. Et dès que j'utilise un mot qui n'est pas exact, elle me regarde en faisant... devant tout le monde. C'est insupportable. Hein. Enfin, voilà. Ouf, voilà. Ça y est, j'ai dit du mal de ma maman et c'est le petit Jésus qui me punit. Ah non, fausse alerte. C'est bon, c'est tranquille. Je peux continuer à rester avec vous. Et puis, il y a une anecdote sur le tract que j'adore. Je ne sais pas si tu le connais, Arlette. C'était dans les années 1930, lors d'un spectacle dans un grand théâtre où jouait Louis Juvet.
Oui.
Tu connais ce grand artiste, très grand comédien français. Il a fait des films célèbres comme Quai des Orfèvres et Hôtel du Nord. Et puis, il avait, avec cette réplique, le culte de la comédienne Arletty. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, moi? Eh bien, il refuse même la direction de la Comédie Française. C'est pour vous dire comme il était humble. Il est là, un jour en coulisses, avant de rentrer sur scène, et il a un trac énorme. Et puis, à côté de lui, il y a une jeune comédienne, inconnue, qui lui dit « Monsieur Juvet, mais calmez-vous, vous êtes un grand comédien, avec des dizaines d'années d'expérience et de succès, le public vous adore. Non, donc arrêtez, alors que moi, regardez, moi je n'ai pas le tract, je suis calme, alors pourquoi avez-vous le trac ?» Et là, il lui répond « Mais ma petite, parce que le trac vient avec le talent. Alors il faut savoir
que je crois bien être de Jouvet parce que c'était un monsieur très
qui avait beaucoup de tac au tac, etc. Et en fait il n'a pas tort et j'expliquerai pourquoi. C'est que plus le temps passe, quand on démarre on est insouciant, ça marche pas, c'est les premières fois. Mais quand on est arrivé à tout le temps faire rire ou à faire passer des émotions, etc. Et qu'il faut le reproduire soir après soir, c'est là que est-ce que je vais y arriver cette fois-ci, parce que hier c'était mais demain et la semaine prochaine. Et c'est ça qui nous fait monter en fait le trac, d'accord. Parce que le trac amène le jugement du public, votre jugement. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais public. Ça n'existe pas. Non, non. Il n'y a que des mauvais spectateurs.
D'accord. Le contraire m'aurait étonné.
Alors oui, il n'existe que trois sortes de spectateurs. Oui, trois. D'abord, il y a ceux qui partent directement après le spectacle, n'attendant même pas que la lumière se rallume, quitte à tomber dans les escaliers pour être le premier au vestiaire ou au parking. Ça, ce sont ceux qui auront détesté. Hein. Les salauds. Puis, il y a ceux qui viennent te faire de grands sourires, t'embrasser, te dire « Bravo, bravo, quel talent !» Ce sont ceux qui ne voudront pas te montrer qu'ils ont détesté.
Ah, mais ça, c'est faux cul. Ça, c'est faux cul à mort.
Et pour finir, il y a ceux qui auront vraiment apprécié le spectacle. Oui, oui, ça existe quand même. Et comment on les reconnaît, ceux-là ? C'est très simple. Tout d'abord, ils viennent te féliciter en personne, te font une accolade. Ils te prennent à l'écart dans un petit coin sombre, surtout les filles. Mais il y a des garçons aussi. Et ils te glissent discrètement un petit billet, comme ça, dans la poche. Et d'après toi, Arlette, une question que je me pose, à quel type de public qu'aurons-nous droit aujourd'hui à notre émission ?
Ah, alors ça, j'ai pas de réponse.
Je regarderai dans ma poche de veste à la fin pour voir s'il y a un petit billet.
Je vais aller chercher mon portefeuille tout de suite après l'émission. Merci musique, Nicolas. S'il te plaît, nous partons avec Vianney qui nous chante La fille du Sud.
On m'a dit que c'était là que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas, et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude qu'on me remballe, mais comme t'étais du sud, j'ai pris un mistral. Moi je voulais n'importe quoi, tant que c'était avec toi. Même devenir ami, même conduire dans Paris. Faut pas faire des études pour être au courant que comme t'étais du sud, tu prenais ton temps. La fille du sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais là pour partir. La fille du sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Puis on est devenu copains, et copains c'est moins bien. Mais s'engueuler à deux, bah c'est mieux qu'à un. Avant toi c'était dur et froid comme la nuit, mais comme t'étais du sud, t'as réchauffé ma vie. La fille du sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du sud, je l'attendais là pour partir. La fille du sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Et deux anneaux plus tard, dans du papier d'argent, j'ai rangé notre histoire, ce Mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent, comme tu venais du sud, était-ce un accident? La fille du sud. La fille du sud.
Alors, dis donc, j'adore Vianney, s'il te plaît, sois poli. Hein.
Je suis poli, je suis juste endormi.
Moi, je l'aime bien. Bref.
Mais j'ai rien dit, hein.
Et puis c'est le choix de Nicolas que tu es en train de critiquer, donc on en parlera tout à l'heure.
Toutes mes
excuses. Alors l'angoisse, elle monte, elle était faite pour ta chronique ou tu as toujours le trac en vrai à petit niveau ou à un niveau plus.
Ça dépend. En fait, comme j'expliquais, c'est que quand tu démarres, tu es insouciant. Enfin, moi j'ai l'avantage, c'est que comme je suis un ancien sportif, j'ai appris à gérer le stress, le trac, parce que comme je faisais du basketball et qu'il y avait beaucoup de, j'étais le meneur, donc je devais être assuré dans mes passes, dans mes tirs, dans mes shoots, etc. Et c'est moi qui donnais toutes les, donc je pouvais pas être stressé. Donc j'ai appris à le gérer par chance. Et donc quand j'ai commencé à monter sur scène, j'avais pas peur et puis il y avait l'insouciance, je m'en foutais, je veux jamais faire rire. Mais avec le temps qui passait, comme tu disais ouais, pff, ah oui, ça y est, je commence le petit trac qui commence. Donc après, j'ai géré avec le temps et l'expérience, mais maintenant, je joue mes shows, je monte. D'ailleurs, quand tu viens me voir, oui, je suis à gauche, je barre, je machin, etc. Par contre, quand je fais un nouveau show, les deux premières, j'ai le trac.
D'accord.
Ouais, parce que comme je ne sais pas si je vais être bon, parce que je n'ai jamais joué, est-ce que les gens vont réagir, est-ce que je ne vais pas bugger, est-ce que c'est... Voilà, là, oui, il y a toujours le trac qui nous fait sentir vivre.
D'accord.
Voilà. Et tant que j'aurai ça, je continuerai. Le jour où je n'aurai plus ça, je me poserai des questions.
Et le fait que tu fasses de la mise en scène, par exemple, est-ce que ça gère ton angoisse autrement, ton stress autrement? C'est-à-dire, même si c'est une première fois,
oui,
mais que hors le fait d'être comédien sur la scène, en plus, tu as fait la mise en scène. Est-ce que ça t'aide à récupérer un petit peu plus de solidité, de moins avoir le trac ou pas?
Non,
ça change rien.
Non, ça ne va rien changer. Il y a l'inverse. Si je fais juste la mise en scène parce que je ne suis pas sur scène aussi, j'ai le trac.
Ah,
la
d'accord,
même manière,
okay,
parce que j'ai les mêmes questionnements que les artistes qui sont sur scène. C'est peut-être même pire parce que je suis dans la salle et je vois les réactions des gens. J'ai pas d'accord le temps. Quand tu es sur scène, tu joues, tu n'as pas trop le temps de réagir, ouais, de réfléchir. C'est juste les réactions qui te font que... Mais quand tu es dans la salle et que tu ne joues pas et que tu as bien le temps de regarder les gens et de bien cogiter, ça c'est plus difficile, je trouve.
Alors, je vais te laisser lire autre chose que tu nous avais amené, mais en attendant, je fais juste un petit aparté. J'ai bien compris l'allusion, ce qui fait que lorsque je viens te voir et que je t'attire un peu à l'écart parce que j'ai aimé, que je te dis, Jamin, j'ai aimé dans ce rôle-là, t'as été super, et là, il faut que je vienne avec un petit billet que je te glisse dans la poche. J'ai compris, on fera ça la prochaine fois. Ok, alors vas-y.
Alors là, je vais enchaîner sur quelque chose que j'ai trouvé, une définition, je dirais de qui, ce n'est pas de moi, mais j'ai tellement ça trouvé drôle. C'est la définition du rire. Il pourrait expliquer le rire. Alors, connaissez-vous une des manifestations physiologiques les plus mystérieuses chez l'homme qui est, eh bien, le rire? Alors, pourquoi mystérieux? Parce que tous les plus grands théoriciens du rire prétendent que le rire est déclenché par l'intellect. Ce qui voudrait dire qu'on peut le gouverner, le contrôler. Eh bien, pas du tout. Moi, j'ai vu de grandes intelligences rire ainsi. Et que dire des introvertis qui rient par aspiration? Et les égoïstes qui n'arrivent pas à partager? Il y a un mystère du rire. Écoutez, moi, depuis longtemps, je veux faire une expérience avec le public et donc je le reporte chaque fois plus tard. Et donc, déjà, j'ai envie de le faire ici avec vous, auditeurs, Arlette, oui. Nicolas. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Je vais vous raconter une histoire drôle et oui. Je vais vous demander à tous de noter à quel moment votre intellect vous commande de rire.
D'accord.
Ok, c'est pas compliqué. Hein.
Voici l'histoire. T'as compris, Nico ?
Ouais. Oui. Voici l'histoire. C'est un fou qui confond tout. Le médecin lui demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» En montrant la main, le fou répond « Le pied !» Il lui montre le coude, la jambe. Il lui montre la poitrine, la tête. Tous les mois, il passe devant une commission médicale. Tous les mois, il est recalé. Un jour, il se présente « Cher ami, avancez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il montre la main et le fou répond « La main !» Bien. Il lui montre le coude. Coude. Il lui montre la poitrine. Poitrine. Excellent. Vous êtes guéri. Mademoiselle, préparez le bon de sortie. Monsieur est guéri. Vous êtes guéri. Mais excusez-moi, je peux vous poser une question là. Comment avez-vous fait? Et le fou répond, très simple, tout dans le cul.
Eh bien, ça, c'est la réponse du fou, moi, qui déclenche mon rire.
Mais t'es pas passé par l'intellect. T'as directement
oui,
ri.
Oui, oui. Pourquoi il fallait que je réfléchisse.
Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Ça fausse toute ma théorie, là. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas abandonner l'expérience ici. Je vais aller un peu plus loin. Hein. Il faut que je trouve autre chose, un autre moyen. Oui, ça y est.
La première fois, c'est Nicolas qui est mis au banc.
J'ai trouvé. À l'évidence, là, tous les deux, toi et Nicolas, vous êtes ce qu'on appelle un public fin, racé. Hein.
Ouh.
Oui, non, ce n'est pas ce petit dérapage qui va me faire changer d'avis. Hein. Donc, vous êtes donc un public fin, racé, ce qui veut dire qu'en bonne logique scientifique, donc je vais vous raconter, non, excusez-moi, je reprends, vous êtes donc un public fin, racé, donc je vais vous raconter une histoire triviale, vulgaire, indigne de vous, indigne de
toi.
Ah non,
je ne veux pas l'écouter.
Mais si, c'est pour l'expérience, s'il te plaît. Ce qui veut dire qu'en bonne logique scientifique, vous ne devriez pas rire.
Oui.
On est bien d'accord.
Oui.
T'es prêt ?
Prêt ?
Je suis prêt.
Approche-toi du micro, Nicolas, parce que toi, tu triches.
Alors, oui. Deux hommes sont aux toilettes. Ils poussent. On entend floc. Il y en a un qui dit « Vénard ». L'autre, il dit « Non, c'est ma montre ».
Ben, ça me fait pas rire.
J'en comprends un peu.
Je recommence.
Ah non, parce que ça va être le temps de la chanson, après tu vas perdre.
Ça va aller vite. Deux hommes sont aux toilettes.
Yeah.
Il y en a un qui pousse, il pousse. Mm-hmm. On entend « floc ». Il y en a un qui dit « vénard ». Et l'autre qui dit « non, c'est ma montre, connard ».
Parce qu'il n'arrivait pas à faire
bon.
Popo.
Ok, d'accord. Bon, aberrant. Votre comportement, ben, c'est exactement ce que le professeur Arenberg expliquait. L'aberration mentale collective passagère. C'est-à-dire que pendant un court instant, vous avez perdu la conscience de votre dignité.
Bon, merci beaucoup. On va en profiter pendant le temps de la musique pour expliquer à Nicolas le floc de l'histoire. Alors, c'est le moment musical ? Oui, alors George Ezra qui nous chante « Pretty Shining People ».
Me and Sam in the car, talking about America, heading to the wishing well, we've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling people, we're all right together, we're all right together. Hey, pretty shining people, we're all right together, we're all right together. Took it in turns to dream about the lottery, what we might have done if we had entered and had won it.
We're each convinced that nothing would have changed. But if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking. And why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing. And hey, pretty smiling people, we're all right together.
Alors nous voici vers la fin de cette première émission. Tu voulais nous dire c'était de qui le
texte?
Oui,
parce que le texte
que tu...
sur le rire que j'ai lu n'est pas de moi, c'est de Alex Métayer, oui, un grand humoriste one-man show français qui nous a quittés malheureusement. Voilà, très 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 fin.
Ah oui, j'aimais beaucoup. Alors restez avec nous parce que Audrey Béacou nous rejoint dans un instant pour la deuxième demi-heure de l'émission. Et puis là, on va parler politique qui se passe en France. Sérieusement, sans moquer, avec Jamin Chtouki dans le trio, on risque pas de... De toute façon, c'est un Belge, alors lui, il s'en fout des Français. Mais on va
justement,
quand même en discuter un petit peu. J'avais envie, sans connaître grand-chose, de discuter de ça un moment. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, suivez-nous à la prochaine demi-heure. Hop, restez
après
avec
la
nous.
Pause.
J'arrivais plus à me dire après la pause.
Reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées.
Oula.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec des...
Alors, on vient d'entendre les Champs-Élysées, chanson de Joe Dassin, et qui est interprétée par Nicolas
Pamplemousse et aussi avec le groupe de John Schrader.
Bravo! Et maintenant, on est avec Audrey?
Oui.
Allô, bonjour Audrey.
Bonjour Arlette, ça va bien?
Bon, Audrey, je suis désolée, avec nous, on a un Belge.
Et oui. Chacun ses problèmes.
C'est pas grave.
On fera avec.
On fera avec. On va être obligé de... Bon, tant pis, écoute.
Il faudra baisser votre niveau intellectuel, je suis désolé.
Dans tes rêves, mon gars. Eh ben, Audrey Béacou, donc, je t'ai présenté en début d'émission, puisque tu travailles ici et tu es coordonnatrice du contenu et des médias sociaux à Canal M. Et comme je l'expliquais en début d'émission, je te fais venir parce que tu es française, que je voulais qu'on parle de ce premier tour. Et en même temps, c'était aussi ta première fois pour voter ici au Québec. Donc, ouais. je voulais savoir ce que t'en pensais. Alors d'abord, question...
Ce fut long. Question. Il y avait une longue queue.
oui, ce fut long, oui, ça c'est sûr. Audrey, qu'as-tu pensé de ce qui s'est passé?
En termes de résultats, tu veux dire?
Oui, en termes de résultats, penses-tu que nous ayons un choix extraordinaire?
Non, le choix n'est pas... Attends, on n'a pas fou.
Oh, c'est pas grave, c'est une redite de 2017, vous n'avez qu'à faire la même chose, hein. C'est bon.
C'est justement
c'est
ça.
Pas sûr.
Une redite de 2017, parce que bon, on sait en plus ce qui nous attend, quoi.
Voilà, t'as vu ce qu'on a passé depuis 5 ans, on n'a pas envie de récidiver.
Bah justement, on va voter de l'autre côté, comme ça vous savez pas.
Mais l'autre côté, ça fait serrer les dents aussi.
Et les fesses aussi. Pardon, excuse-moi Audrey, je te laisse parler. Vas-y.
Non, mais c'est pas grave, mais c'est sûr que... Ben non, le choix est pas incroyable, c'est vraiment la peste ou le choléra, donc bon, oui. Bah on va...
C'est ça.
Donc bon, bah on va y aller, parce qu'on veut pas non plus que on dérive sur quelque chose qui serait vraiment irréparable, mais bon, voilà quoi, c'est pas très réjouissant comme résultat, non.
N'empêche que bon, bah, c'est pas comme ici au Québec, c'est sûr, mais là on a eu, enfin pour ceux qui suivent et puis qui connaissent un peu, puis de toute façon tous les journaux ici en ont parlé, on a eu une gauche plus que défaillante, je dirais même inexistante.
2%. pas vraiment, ça dépend, ça dépend ce que t'appelles la gauche.
On a eu l'extrême gauche, voilà. avec Jean-Luc Mélenchon, où là par contre, ouais, là par contre c'est bien monté. On dirait que les extrêmes vont bien chez nous. Audrey.
Oui, bah, mais c'est ça. Après, il y a aussi beaucoup, je crois, de gens qui ont pris les extrêmes pour contrer d'autres extrêmes. Enfin, ça a été un peu rocambolesque, ces élections. On ne savait pas trop où donner de la tête. Puis bon, bah, le résultat est ce qu'il est.
Est tombé. Est-ce que toi, dans les gens qui sont autour de toi, qui sont de ton âge, parce que tu es une toute jeune femme, est-ce que il y a des... Comment dirais-je, des moments de, tu sais, d'abattement, de dire « bof, est-ce que ça sert à quelque chose de voter ?» Puis là, je vois Jamin, il va monter sur ses grands chevaux parce que pour lui, voter, c'est impérieux. Donc,
mais toutes les personnes de mon entourage sont allées voter, mais personne n'est allé voter avec conviction. Donc, oui. Je sais, moi, par exemple, que j'ai pris ma décision peut-être samedi à 8h. Mes amis, c'était un peu pareil. On y allait un peu tous.
On prend le moins pire.
C'est ça. Mais c'est même pas le moins pire, parce que ça fait quand même un moment qu'on est habitué à voter par défaut. Mais là, c'était encore plus par défaut du défaut, j'ai l'impression. Et c'est un peu pas très réjouissant, quoi.
Il n'y avait vraiment aucun candidat qui pouvait avoir... Je vais parler à toi, puis je vais demander à Arlette avoir votre voix. Parce que là, vous dites, on fait par défaut. On ne parle pas du résultat. Il y avait quand même quoi, presque 10 candidats. Dans les 10 candidats, il n'y en a aucun qui vous attirait?
Moi, personnellement, non. J'aurais pris un petit peu chez un petit peu chez l'autre et un petit peu chez un troisième, mais...
En fait, c'est ça. C'est aussi une de mes questions où je me suis posée pourquoi ou qui je vote, dans le sens, est-ce que je vote pour une personne? Est-ce que je vote pour un leader? Est-ce que je vote pour un programme? Est-ce que je vote pour des idées? Et il n'y avait personne dans tous les candidats qui cochaient, si ce n'est pas toutes les cases, assez de cases. Mmh. Parce que, mettons, il y avait un candidat où je me disais, bon, bah, ça pourrait le faire quand même, les idées se rapprochent des miennes, mais en termes de personnes, enfin, non. Non. D'autres candidats, bon ben voilà, c'est juste pas du tout ma sensibilité politique. D'autres où tu te dis, bon, ben, peut-être qu'on peut faire avec, mais en même temps, tu veux pas voter pour quelque chose qui va, enfin, qui est pas en adéquation avec tes valeurs. Donc, c'est ça, en fait.
C'est ça, oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est ce qui est difficile. C'est ce choix-là de faire, de se dire, ben, mon Dieu... Comme c'est tu disais tout à l'heure, entre la peste et le choléra.
Pourquoi pour moi, en tant qu'œil extérieur, pour moi, je trouve qu'il y avait la diversité, il y avait le choix. Mais effectivement, quand tu vas pour voter...
Tu avais le choix chez ceux qui ont fait 0,3.
Mais tu t'en fous du résultat. Tu avais un choix. Ouais. Même si c'est pour voter pour celui qui va gagner, vous ne votez pas par rapport à une idéologie, etc. Vous votez pour gagner.
Par rapport à celle ou celui qui se rapproche le plus de nos idées.
Voilà. Donc normalement, on s'en fout de savoir s'il a fait 0,3%. Ouais. Le principal, c'est que tu as voté pour une personne. Pas pour une personne. C'est là l'erreur, je pense. Après, c'est mon avis. Je ne vous juge absolument pas.
Eh bien, discutons-en.
Trouve que s'il faut voter pour un programme, pour effectivement un parti, parce qu'il a des valeurs que tu défends. Moi, j'ai été élevé comme ça. Là, ce qu'ils ont subi, c'est qu'il n'y a pas eu de débat politique à cause de la Covid. Il n'y a pas eu les débats, il n'y a pas eu le développement des programmes. On n'a pas, moi j'ai regardé, je ne sais pas qui faisait quoi sur ces élections-là. Ça, c'est vrai que c'était très embêtant. Mais, entre guillemets, à défaut, si moi je suis un centriste, je dis centre plutôt droit, je dis je vais voter centre droit généralement, sauf si vraiment c'est une personne qui ne le représente pas, etc. Mais je vais voter toujours dans ces valeurs-là parce qu'elles me correspondent quand je vais décortiquer le programme, etc. Les gens qui sont de gauche, si vous êtes de gauche, il y a le socialiste, il y avait Mélenchon, il y avait Poutou, il y avait différentes sensibilités. À droite, il y avait beaucoup moins parce qu'il y avait que Pécresse. Et puis, tu as Macron qui est plus un centriste centre-droit, je dirais. Si, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droit, c'est un centre-droit.
Maintenant, je pense qu'on peut dire qu'il est arrivé à droite.
Ah oui, puis très nettement. En plus, je suis d'accord avec Audrey.
Il a quand même bien glissé.
Pourquoi ?
Il a glissé beaucoup, beaucoup. Ben, on va discuter de ça tout de suite. Reste avec nous, Audrey. On passe une chanson et puis je te laisse expliquer à un Belge ce que c'est que la politique française.
Ok, il n'y a pas de problème.
Alors, on va partir en musique avec, on dit Oscar Anton ou Oscar Anton et Clémentine qui nous chantent Nuit d'été.
On me dit arrête, tu te fais du mal, mais si j'ai mal à la tête, c'est que tout me ramène à toi. Et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens. Là, pas pris de retard, juste un autre chemin, même couleur qu'avant, mais moins de lumière. J'aimerais écrire d'autres mots, mais on ne lit que dans les rêves. Et je sais bien, tout ça doit sûrement te faire rire, mais donnez-moi le temps d'entendre ces sourires. Alors t'arrêtes pas, non, j'ai plus mal à la tête, je ne vois plus que toi. Tu dois trouver ça bête et ne t'en fais pas. Relève la tête, le ciel est bleu. Je peux m'endormir tranquille. le noir de la nuit. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore hésitante. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vrai, le temps passe vite. Oui, mais c'est facile à dire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il ne fait que ralentir. Et j'en ai passé du temps à écrire toutes ces lignes. Et je suis encore hésitante. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vrai, le temps passe vite. Oui, mais c'est facile à dire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il ne fait que ralentir.
Alors, Audrey, nous sommes, Audrey Béacou, donc toujours avec nous, nous sommes, on te donne le droit de réponse face à ce qu'a dit Jamin. T'es avec nous?
Oui, je vous entends.
Voilà, donc t'as ton droit de réponse quand il t'a dit, mais où Macron glisse? Parce que pour lui, il restait quand même assez au centre.
Et j'ai nous, dit centre-droit, bien... j'ai pas on... dit droite, ouais. J'ai dit centre-droit.
Mais nous, on était bien d'accord sur le fait qu'il avait pas mal roulé jusqu'à la droite.
Là, il a quand même bien fait le jeu de l'extrême droite avec ses propos sur l'immigration et les étrangers pour bien ratisser à droite. Bon, ça, c'est aussi ses propos. Quand il baisse les aides pour le logement qu'on a droit en France, quand on est soit jeune, soit un peu défavorisé, quand il les baisse, bah, c'est sûr que c'est pas une mesure très, très sociale. Donc là, ça le fait encore glisser à droite. Quand on voit son... postulat face aux violences policières, ça continue de le faire glisser à droite. Quand il dit que l'égalité homme-femme sera la mesure phare de son quinquennat et que la composition de son gouvernement dit bien le contraire, on va dire,
oui.
Ça le fait encore glisser à droite. Enfin, c'est pas une chose, tu vois, mais c'est des petites choses, des petites choses, des petites choses en 5 ans. Ah, il y aura une petite mesure ici, une petite mesure là. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, bah, du centre droit, il glisse vers la droite.
Ah, il a quand même fait d'autres choses aussi, hein, parce que là, c'est que le côté négatif, mais il a supprimé la taxe de l'audiovisuel. Ça, c'est un truc social, on pourrait dire que ça... Bah oui, c'est 200 euros. Ouais. Il a rajouté des primes, il a...
Rajouté des primes pour certaines qu'il a enlevées après. Pour les trucs de retraite, alors ça, je ne les ai pas sous les yeux, mais il a...
Non, il a donné aussi un petit peu... je regarde aussi la politique, parce que ma femme est française, donc ne me dis pas non. Si je t'affirme quelque chose, c'est que j'ai l'information. Mais c'est sûr que ce n'est pas des choses...
Ce pas des choses qu'il avait promis au départ.
Mais qui n'ont pas été médiatisées aussi. Et il y en a moins. Alors, je suis d'accord avec vous. Hein, je ne veux pas le défendre. Hein, c'est pas ça. Moi,
alors, j'espère bien parce qu'on arrête tout de suite.
Non, pas du tout. C'est parce qu'on est. En fait, moi, je veux dire. Mon point de vue, c'est qu'on est influencé par les médias. On n'est pas influencé par nous-mêmes. Parce que je te disais, si tu vas regarder le programme des gens, etc. Mais on n'a pas pu. Non.
On n'a pas pu regarder grand-chose, puis on les a surtout pas vus s'affronter. Donc,
on va pas parler de politique, les jugements des uns et des autres, c'était pas le propos. Moi j'ai une question par contre, parce que c'est quelque chose que je me suis posé ce week-end, quand j'ai vu le nombre de Français résidant au Québec, quand on a eu le palais des congrès, il y avait énormément de queues, à Jeanne-Mance, il y avait énormément de queues.
Et il y a 5 ans, il n'y en avait pas.
Question, dans tous ces Français, il y a des gens qui sont résidents canadiens. Donc, ma question, c'est pourquoi vous allez voter à des élections françaises? Vous habitez au Québec. Vous payez des impôts au Québec. Parce donc, je vais français. Parler ça à... Mais pourquoi?
Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas résident.
Vous n'y vivez pas mais... C'est quoi? Moi, je ne vote plus en Belgique. Je n'y connais même plus les partis, etc. J'étais en France, maintenant je suis au Québec. Donc, ce n'est pas un jugement. Je ne comprends pas le
moi,
pourquoi.
Moi, ça m'intéresse. J'y retourne de temps en temps et je vais y retourner de plus en plus souvent. Et j'ai l'intention, une fois que j'aurai terminé de travailler, d'aller y vivre. Donc oui, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. J'y ai mes enfants, j'ai de la famille là-bas. Oui, ça m'intéresse, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup.
Et aussi, si je peux me permettre, moi, même si pour l'instant je réside au Canada, je disais je ne suis pas résidente, mais je ne suis pas résidente permanente. Mais
ah, voilà, ça c'est une de mes questions. Donc oui, c'est différent.
Mais je réside au Canada en ce moment, mais la France, ça reste quand même mon pays et j'y tiens à mon pays, même si je n'y suis pas. J'ai pas envie que ça devienne une terre de
c'est ça
d'intolérance.
le climat social est désastreux, même si je ne vis pas, c'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Donc si j'ai la capacité de changer quelque chose, bah, je vais le faire, même si je ne vis pas.
D'accord, c'était une question, c'était toujours sans jugement.
On a tous de la famille quelque part.
Oui, mais c'est à la famille à voter, c'est pas à toi. Mais toi, t'y vis pas, toi.
Mais moi, je vais y retourner. Tu crois que je vais passer ma retraite loin des miens? À partir du moment où je travaille plus,
mais
je vais rentrer.
C'est pas là pour le moment. Je parle pas de toi.
Oui, mais je fais partie des gens qui ont peut-être une idée, qui sont venus ici, qui travaillent. Et puis le jour où ils travailleront plus, bah, peut-être qu'ils vont rentrer chez eux.
Je sais pas, moi je trouve que ça... Ok, d'accord. Je garde mon avis.
Je pense que... Enfin, après, je peux pas parler pour les autres, mais j'imagine que c'est vraiment un sentiment quand même d'appartenance.
Oui, une fibre patriotique.
Pays d'origine. Oui, ouais. Voilà. Et puis, ouais, très patriotique.
Après, c'est vrai que... En vous écoutant, il y a une grande différence, et c'est vrai que moi j'ai du mal. Moi, je suis issu d'un pays qui est une royauté. Donc, je ne vais pas élire mon roi. Il m'est imposé depuis ma naissance. Ben, il m'est imposé, mais je l'aime tout autant. Vous, là, c'était des présidentielles. Donc, c'est vrai que ça représente l'image de la France.
Oui.
Oui, c'est ça. Après, Non,
oui.
Vas-y.
Vas-y, fini.
Non, j'allais dire peut-être que pour les municipales ou ce genre de choses, j'imagine qu'il n'y a pas autant de Français résidant au Canada qui se déplacent, parce que là, ça a moins de sens.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est plus sur les présidentielles, parce que ça représente l'image de la France, autant en interne qu'à l'international. Oui, OK.
Ça représente 5 années. 5 années.
Bon, avant, c'était 7, donc ça vous a déjà gagné 2 ans.
Ben là, c'est encore 5, ça fait encore beaucoup. Et déjà, beaucoup trop, parce que là, on a le doigt entre le marteau et l'enclume.
Tu sais, entre lui et le petit bonhomme en mousse qu'on a eu 5 ans avant.
Ben, ouais. Eh bien, je ne sais pas. Des moments, on dit au secours, on change, et puis ce qu'on retrouve, c'est encore pire.
C'est ça.
Je ne sais pas si je me mettais
bien
pas
dans
à
la
avoir
politique.
Une petite tendresse maintenant pour Flamby par rapport à...
Ah non.
On peut qu'on perd, on ne veut pas qu'on gagne.
Alors...
Ah, sinon, on peut demander à Poutine de venir. Hein. Pardon.
Non, ça va, il peut rester où il est.
J'en ai un point de comparaison.
On ne va pas l'inviter.
Non, ça va. Mais aussi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? Parce que là, c'est le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Enfin, bon, il n'est pas élu, je l'espère quand même. Bon. Mm-hmm. Mais dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fera, quoi? Parce que pour l'instant...
Il n'y a rien en face. Pour l'instant, il n'y a rien en face. Et puis, il est en train de nous promettre toutes les choses qu'il nous avait promis il y a 5 ans et qu'il n'a pas faites. Puis il dit, si, je ne pense qu'à ça, je ne veux que ça. Alors moi, j'attends le débat. Puis je ne suis pas la seule, sans doute. J'attends le débat avec un L majuscule pour voir comment vont se comporter les individus. Et à ce moment-là, oui, ça va être... quoi que tu en penses, pour moi, ça va être une question d'individu. Après.
Ouais.
Parce que je n'ai pas un choix... J'ai pas un choix de fou.
Ah ben non,
en tout cas,
que deux.
Personnellement.
D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'est obligatoirement deux. Moi, je pensais que c'était avec un certain pourcentage. Je me suis dit, bah tiens, Mélenchon 20%, 20-20-20, il y aura un 3. Et en fait, moi, je trouve que ça aurait été plus équitable. Parce que le mec qui est à 1 ou 2% de Le Pen ne passe pas alors qu'il a fait 20%. Ça, par contre, tu vois, il y a un truc dans la logique électoraliste. Je ne comprends pas pourquoi c'est obligatoirement deux.
Je ne sais pas répondre à ça. Et toi non plus, Audrey?
Ben là, il faudrait rentrer dans la constitution de la 5e République, puis bon, je pense pas que...
Non, on n'a pas le temps.
Ok, d'accord.
Il a envie, ce soir. Mais ouais, c'est juste comme ça que les règles ont été conçues, quoi.
Et t'as attendu longtemps pour voter? Je sais pas si t'es allé quand, c'était samedi?
Oui, je suis allée samedi, j'ai attendu 3 heures, donc 2h30 sous la pluie.
Eh oui,
c'était long.
Mais c'est bien, tu as fait ton devoir, donc je te félicite que tu aies voté.
C'est
bravo.
Bien. Bravo pour ça. En tout cas, moi, je voudrais te remercier parce que j'ai contacté parce que je voulais en parler. Mais j'ai contacté Audrey juste aujourd'hui et elle a gentiment accepté de participer à ça et de venir en parler aussi. Alors, je voulais te remercier pour ça, Audrey. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Arlette.
Et puis, écoute, on se voit demain, non plus pour la politique, mais pour le travail cette fois.
Nous, on ne se croisera pas, donc bonne journée.
Eh bien, tu la croiseras peut-être un de ces jours, et comme ça, tu sauras qui tu as eu au téléphone.
Avec plaisir.
Voilà.
Merci beaucoup, Audrey. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Alors là, on va se quitter avec un chanteur qui s'appelle Alexandre Poulain et qui nous chante « Contrebande ». Mais rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Hein. Ne cherchez pas à faire des... Non, il n'y a aucun lien.
Il n'y a aucune contrepétrie là-dedans. C'est juste de la contrebande.
Allez, allons-y pour contrebande.
Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. Mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est fou pareil, c'est pas bizarre de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire que le noir trouve jamais sa chambre? Je laisse aux humains les plus tristes les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur. C'est faux que terre vient de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de sang? Si je me perds dans les heures sombres, cherchant mon souffle et mon élan, retrouver mon ombre et ma lumière en filament. Et si jamais tu perds des pieds, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu puis du café, je veux croire en la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Ouh, penses-tu qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de sang? Faire que le noir trouve jamais sa chambre.
Eh bien voilà, nous venons d'entendre Alexandre Poulain qui nous a parlé de contrebande. Donc, Germain Stouki,
c'est moi-même.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Oui, tant bien que mal.
Je t'ai pas mis de claque, mais le cœur
y était. Je sais. Bah oui, c'était fait exprès. T'aimes bien que je te taquine, parce que justement.
Non, c'était pas taquiner politique. Moi, je ris pas. Là, il y a aucun truc qui me fait rire.
Ça, avec la France, il faut savoir. Le sujet tabou, c'est la politique,
et l'argent. Et la religion,
et l'argent aussi. Il ne faut pas parler de ça, ça fout le bordel, c'est incroyable. Au Québec, c'est le sexe.
L'argent, beaucoup l'argent.
Oh non, ça met pas, c'est pas tabou l'argent. Mais par contre, plus le sexe,
ouais,
ou les religions.
D'accord. Bon alors, merci à toi, Germain
Stouki. Avec plaisir.
Merci à Audrey Béacou.
Merci Audrey.
Nicolas Wartman pour la technique et puis pour les chansons. Et puis à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis, on vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.
Salut, bye bye.
Merci à vous, au revoir.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à
deux relish moutarde puis le liqueur.
Et surtout à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM.
La meilleure façon de se reconnecter.